Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut à tous, c'est un épisode un petit peu spécial de Positron parce que j'étais en train de regarder une 12e vidéo de description de guide de par où commencer pour Brandon Sanderson et les livres du Cosmere qu'il a écrit, très nombreux, très nombreuses pages. Et je me suis dit, je vis Brandon Sanderson maintenant, j'en parle tout le temps, je lis tout le temps Brandon Sanderson. Et je suis peut-être à un niveau de connaissance de Sanderson où je peux me permettre de faire moi-même un guide pour prêcher la bonne parole du Cosmere à mes auditeurs adorés et favoris. Et donc, bah écoutez, c'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Donc, c'est un épisode spécial de Positron. Comme je disais, si vous ne me connaissez pas, je suis Patrick Béja et je fais des podcasts. Celui-ci, mais aussi le rendez-vous tech sur l'actu tech, le rendez-vous jeu sur l'actu jeu vidéo. Et peut-être que vous êtes là parce que quelqu'un vous a dit bah, c'est un bon moyen de commencer à aimer Sanderson, d'écouter ce guide. Alors, le problème de cet auteur de fantasy, essentiellement, hein, c'est de ça qu'on va parler, il fait énormément de choses, il est super prolifique, mais il est le plus connu pour ses livres et ses séries qui se situent dans l'univers du Cosmere, qui est un univers, son univers à lui. Et c'est très prolifique, comme je disais. Il a vraiment commencé à être connu, on va dire, il y a une dizaine d'années, un petit peu avant. Son premier livre publié, c'était 2008, je crois, quelque chose comme ça. Mais vraiment, les séries à succès sont arrivées autour de 2010, et puis un petit peu après. Et la bonne parole s'est répandue. Et dans cette période, il en a publié, je ne sais pas, peut-être... deux par an, trois par an, enfin c'est invraisemblable. Dans le Cosmere, il y a, allez, on va dire une vingtaine de livres, un petit peu moins, mais il a aussi d'autres univers, d'un truc en young adults, donc jeune adulte, ado, de super-héros, il y a des trucs de science-fiction, il y a enfin énormément de choses. Moi, j'en suis encore à la fantasy et le Cosmere uniquement, je lirai peut-être le reste après, sans doute d'ailleurs. Mais il est hyper prolifique, donc c'est très difficile de savoir par où commencer, d'autant plus que les histoires sont indépendantes, mais reliées de manière subtile par des éléments qu'on peut retrouver de l'un à l'autre de ses livres et de l'une à l'autre de ses séries. Donc c'est pas vraiment évident de savoir par où commencer. En gros, il y a deux séries principales, les Archives de Rochard, The Stormlight Archives, en anglais. Moi, je les lis en anglais, donc je suis désolé pour les anglicismes. Et Mistborn. Mistborn, avant de commencer à parler de ce qui constitue le Cosmere, quelques mots en plus sur Sanderson, si vous ne le connaissez pas. Donc, non seulement il est très prolifique, mais en plus, il a des caractéristiques vraiment spécifiques. Il crée des systèmes de magie. La caractéristique la plus connue de ses livres, c'est ces systèmes de magie extrêmement complexe, ou pas vraiment extrêmement complexe, mais extrêmement défini. Ce qu'il appelle, lui, les « hard magic systems », donc les systèmes de magie durs, peut-être en anglais, enfin très en français, très définis. C'est pas pour les opposer au système de magie soft qu'on peut trouver dans, par exemple, Tolkien. C'est-à-dire que Sanderson, il va avoir une approche des systèmes de magie qui est presque scientifique. Il y a des règles, des limitations, des choses nécessaires à faire dans les trucs de magie qu'il fait. Dans Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu genre, bon, et là, magie. Alors là, ça se passe magie. Alors, les deux philosophies ont des avantages et des inconvénients. Moi, j'aime bien les trucs un petit peu scientifiques, donc je raisonne un petit peu plus avec Sanderson, sans doute. Mais c'est le truc pour lequel il est le plus connu, je crois, et c'est l'une des choses qui fait le plaisir de ses livres. L'autre chose, c'est que il prépare énormément ses histoires. Enfin, c'est ce qu'on ressent en tout cas. C'est-à-dire que il va quelque part, il sait où il veut aller, il met des petits indices ou des petites indications tout au long de ses livres pour que quand il y a une sorte de dénouement, et ben on se dise « Ah mais oui, mais depuis le début c'était comme ça et ça je ne l'ai pas vu venir et c'est incroyable, mais oui évidemment !» Enfin, la manière dont j'aime le décrire, c'est que c'est un petit peu Lost, J.J. Abrams, mais où il sait finir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de mystère peut-être dans les débuts de ces histoires, il y a beaucoup de trucs intéressants, mais pas autant de mystère. Mais par contre, la fin, ça satisfait. C'est que vraiment, on a, allez, dans 8 livres sur 10, une fin où on est étonné, ému, mind blown, enfin, il y a toutes ces choses-là. Et puis, il écrit lui-même, il le dit, il écrit souvent pour la fin. Et ça se ressent dans ce qu'il écrit. Et l'autre aspect peut-être un petit peu plus négatif, c'est que c'est pas le meilleur auteur au niveau prose qui soit. Clairement, c'est pas un niveau littéraire incroyable. Je me souviens que quand j'ai lu l'un de ses livres, je me disais, mais si je lis encore une fois « And he raised an eyebrow », je vais m'ouvrir les veines, quoi. C'est terrifiant. C'était peut-être dans ses premiers livres. Mais bon, le niveau de littérature, c'est clairement pas ce qui se fait de mieux. Et il le dit à demi-mot lui aussi. Enfin, lui, il écrit, c'est un auteur compulsif. Il écrit, il a des histoires à dire, il a des trucs à raconter. Et je crois pas qu'il s'attarde énormément sur le style littéraire. Mais c'est pas... Contrairement à ce que voudraient faire penser certaines personnes, ce n'est pas la seule qualité qu'on peut avoir dans un livre, en particulier quand on raconte des histoires. C'est-à-dire que le niveau de la prose n'est peut-être pas incroyable, mais par contre, le niveau de l'histoire en elle-même, la manière dont il va nous impliquer, les émotions dont il va nous faire ressentir, l'intérêt qui va nous éveiller... pour les mondes qu'il crée, les personnages qu'il construit et tout ça, ça fait partie des qualités littéraires d'une œuvre aussi. Et là, il est vraiment au top niveau. Alors, les personnages ne sont pas forcément les plus complexes, encore que ça change au fur et à mesure qu'il devient meilleur auteur. Ce n'est pas les plus complexes qui soient, mais dans l'ensemble, l'histoire est prenante. Et c'est ça qui, moi, me plaît le plus. J'ajoute qu'une autre de ses grandes qualités, qui est très liée au système de magie, c'est qu'il fait du world building, il construit ses univers de manière vraiment préhensible, quoi. On le ressent, la manière dont les univers sont créés, les mondes sont créés, ils sont tous assez différents. Il y a des thèmes qui reviennent quand même beaucoup, il y a beaucoup de princes rebelles, beaucoup de révolutions, beaucoup de religions, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, c'est quand même hyper bien décrit et hyper, comment dire, on visualise bien par ses mots ce qu'il construit. Et une autre chose que je dois préciser, c'est que moi, je les lis, mais en fait, je les écoute. J'écoute les audiobooks en anglais. La majorité, je crois, existe en français, surtout maintenant qu'il commence à avoir un cult following assez conséquent. Je les lis en anglais. Et au début, j'étais pas super convaincu par les acteurs qu'il a choisis. C'est Michael Kramer et je sais plus comment elle s'appelle, l'autre, j'ai oublié. C'est sa femme d'ailleurs. Mais ils sont très bons. Au début, j'étais hésitant. Et en fait, ils ont une caractérisation des voix, surtout dans Mistborn, avec l'un des personnages qui fait beaucoup d'accent, qui est vraiment, vraiment, qui ajoute au plaisir du livre. De manière exponentielle, quoi. D'ailleurs, le tout premier livre qu'il avait écrit existe en audiobook aussi, qui s'appelle The Hope of Elantris. Je suis désolé, je vais parler, comme je disais, pas mal en français, mais en anglais, je veux dire. Mais le tout premier n'était pas lu par le même auteur, et du coup, ça m'a beaucoup moins plu à ce niveau-là. Entre l'écriture, le niveau d'écriture qui était quand même bien en dessous parce que c'était son premier, et la lecture de l'acteur qui était vraiment pas incroyable, bon, j'étais j'étais un petit peu déçu par le premier. Mais du coup, on commence à toucher à ce que je vais... Le sujet principal de notre épisode, c'est les recommandations. Donc tout ça, c'est ce que vous pouvez attendre dans tous ces livres. Mais l'important, c'est de savoir par où commencer. Parce que comme je vous disais, alors je vais essayer de prendre la liste, le nombre de livres est impressionnant. Il y a, d'une part, alors ça s'appelle Mistborn, ça s'appelle Fils des Brumes. Il y a une première trilogie qui se divise donc en trois livres, évidemment, qui sont relativement courts. Hein. Ils font seulement, je ne sais pas, peut-être 400, 500 pages, quelque chose comme ça chacun. Donc ça, c'est court. Il y a aussi la série Wax and Wayne, qui est la suite des Fils des Brumes. Il y a, je vais juste les lister rapidement pour donner une ampleur. Donc, la série Wax and Wayne, elle a 4 livres. Donc là, on est déjà à 7. Les Archives de Rochard, il y en a 4 qui ont été publiées sur 10 qui sont divisés en deux séries, on va dire, deux demi-séries. Et le cinquième devrait arriver cette année. Donc, on est déjà là, 7 et 4, ça fait 11, j'arrive à compter. Il y a Elantris, qui est son premier livre publié, et Warbreaker, qui est un autre autonome. Donc là, on est à 13 livres, dont 2 autonomes et 3 séries ou 2 séries et demie. Il y a aussi des trucs en plus des sujets, des histoires courtes. Enfin, lui, Sanderson, quand il écrit un truc court, ça fait 300 pages. Hein. Donc, une petite nouvelle, c'est déjà un roman pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut... Ah, il y a aussi une BD, d'ailleurs, que j'ai oubliée, qui est White Sand, le sable blanc, qui est également, qui fait partie du truc. Donc, il y a énormément de livres, et où commencer, c'est compliqué. Donc, je vais vous dire, moi, allez, il y aurait 3 moyens de commencer que je recommanderais. Ce que je ne recommande pas à la base, c'est de commencer par son premier livre, qui s'appelle Elantris, qui a été publié en anglais en 2008, quelque chose comme ça, et qui, je trouve, est le seul livre où son inexpérience en tant qu'auteur affecte le plaisir de lecture. Je trouve vraiment que Elantris, c'est juste pas un bon livre, en fait. C'est pas bien écrit, les personnages sont pas super intéressants, le système de magie est même pas assez poussé pour que ce qui fait la force de ces autres livres soit une force dans ce livre-là. Donc vraiment, je recommande pas de commencer par Elantris, même si il a cet avantage qu'il fait pas partie d'une série, donc on peut en lire un et puis on a fini. Mais Elantris, il est pas bon. Ça veut pas dire que je recommande pas de le lire tout court. Ça veut dire que je recommanderais de le lire peut-être après avoir lu les autres parce qu'on est tombé amoureux de Sanderson et puis on veut voir ce qu'il a fait d'autre, ce qu'il a fait en plus. Et donc, Elantris, je ne le recommande pas. Si vous voulez un livre indépendant, autonome, qui montre les forces et l'intérêt de Sanderson, mais vous voulez quand même avoir fini après un livre, parce que vous n'êtes pas sûr de vouloir vous lancer dans une série interminable, je recommanderais Warbreaker, qui s'appelle Warbreaker en français aussi. Warbreaker, il est paru juste après Elantris, genre en 2009. Et alors, je ne sais pas si c'était parce que j'étais à fond dans Sanderson ou parce que j'étais plus sensible à l'univers de Warbreaker, mais j'ai trouvé qu'il n'avait quasiment aucun des défauts de Elantris. On est beaucoup plus au niveau de ce qu'il a fait beaucoup plus tard qu'au niveau de Elantris. Il y a peut-être que en écrivant les premières versions, il avait commencé beaucoup plus tôt avec Elantris, il était bien meilleur sur Warbreaker. Mais donc, un que je recommanderais, c'est Warbreaker. Le système de magie est hyper intéressant. Je vais rien vous en dire. Hein. Il vaut mieux y aller blind. Le système de magie est hyper intéressant et bien foutu. Et l'histoire, je trouve, est vraiment motivante. Il y a des trucs inattendus, des rebondissements, une conclusion satisfaisante. Enfin, vraiment, Warbreaker, pour moi, c'est l'idéal pour lire un livre de Sanderson entier sans se lancer dans une série. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment moins. Peut-être que, bon, encore une fois, je ne vais pas vous raconter, mais il y a des gens qui disent que Warbreaker est moins intéressant que les autres. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis complètement fan de Warbreaker. Donc ça, c'est le truc que je recommanderais vraiment. Mais il y a... Ah oui, entre parenthèses, je ne l'ai même pas dit, mais si vous lisez en anglais, il est disponible gratuitement sur le site de Sanderson. Alors, ce n'est pas très pratique à lire, il n'est pas en PDF, il y en a d'autres qui sont en PDF, mais il est disponible en Creative Commons. Donc, je suis sûr que vous pouvez le trouver quelque part. Warbreaker, vous le téléchargez en PDF quelque part, sûr qu'il sera en anglais, hein. Je suis sûr qu'en français, il y a des droits de traduction et tout, mais en anglais, il est disponible. Moi, je dirais, vous pouvez l'acheter, sûr qu'il n'est pas cher, Warbreaker, ça vaut le coup, quoi. Donc Warbreaker, c'est ma recommandation. Mais il y a aussi, si vous êtes encore plus hésitant sur Sanderson et que vous ne voulez pas vous lancer même dans un truc, parce que Warbreaker, il fait bien 1000 pages, enfin 900, si vous voulez des choses plus courtes, vous pouvez essayer de trouver plusieurs histoires courtes, ouais, des short stories, qui sont à mon sens, alors j'hésite à le dire comme ça. Si, vous avez des histoires courtes qui sont beaucoup plus courtes, qui vont faire 100 pages, 150 pages, et qui ont toutes les mêmes qualités que Warbreaker, mais qui sont du coup beaucoup plus courtes. Alors pour les trouver, c'est un peu compliqué. Il y en a certaines qui sont dans un livre qui réunit des histoires courtes du Cosmere qui s'appelle Arcanum Unbounded. Je ne sais pas s'il est en français d'ailleurs, ce livre-là. Donc ça sera peut-être difficile à trouver en français. Mais Arcanum Unbounded réunit plusieurs de ces histoires qui sont vraiment intéressantes à mon sens et qui permettent d'avoir un goût de ce qu'il propose. Et justement, je vais vous suggérer... Alors il y en a trois, deux d'entre elles sont dans Arcanum Unbounded. Commençons par ça, je vous dis... Vous pouvez acheter ce livre-là et lire certaines histoires parce que si vous lancez... Non, ils y sont les trois, en fait. Pardon, elles y sont... Les trois y sont. Si ça vous plaît, vous reviendrez à ce livre pour lire les autres petites histoires qui sont connectées aux autres séries. Donc, les trois que je recommande. The Emperor's Soul, L'âme de l'Empereur, qui existe d'ailleurs en français, je crois, qui est sorti... en livre de poche, voilà, c'est ce que je comprends, qui est sorti en livre de poche, donc qui est disponible individuellement. Il fait à peine 200 pages, 206 pages. Et pour moi, c'est un roman de science-fiction à part entière qui vaut largement ce que j'ai lu ailleurs. Donc, L'âme de l'Empereur, c'est dans l'univers d'Elantris, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Elantris, et je trouve que c'est... écrit de manière idéale pour découvrir Sanderson. Donc ça, c'est le premier que je recommanderais, et vous pouvez le trouver, comme je disais, en français, individuellement. L'âme de l'Empereur. Les deux autres qui sont dans Arcanum Unbounded, c'est Shadows for Silence in the Forests of Hell, donc le silence pour les... les ombres du silence dans les forêts de l'enfer. Je ne crois pas qu'il existe en français. Il a été publié ailleurs avant ça. Et là encore, c'est un exemple de ce qu'il fait de mieux dans... ce qu'il fait de mieux, de ce qu'il fait tout court dans les univers qu'il développe. Et il y a aussi Sixth of the Dust, donc le sixième du crépuscule, qui là encore est un univers... Enfin, les trois sont des univers complètement différents, système de magie complètement différent, des personnages complètement différents. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle des trois, c'est qu'ils sont petits, faciles à dévorer, à grignoter même, et qu'ils vous donnent en plus, peut-être qu'ils sont plus courts que ces grandes nouvelles, mais, ou que ces livres, mais ils vous donnent du coup une variété de ce qu'il peut proposer. Et moi, je me suis régalé en lisant ces livres-là, en lisant, du coup, The Emperor's Soul et Shadows for Silence in the Forests of Hell et Sixth of Dusk, parce qu'il y avait des trucs que je retrouvais un petit peu d'autres éléments, mais aussi, surtout, cette variété qui fait la richesse de Sanderson. Donc, ce que je dirais, c'est qu'une autre option, c'est d'acheter Arcanum Unbounded, qui n'est peut-être pas disponible en français, et de lire ces trois histoires qui sont pour moi autonomes. Il y a des gens qui vont vous dire il y a des spoilers, des machins. Moi, je ne trouve pas. Dans d'autres histoires de ce livre-là, il y a des spoilers, donc ça, faut pas lire. Mais ces trois-là, vous pouvez les lire et vous aurez largement de quoi... Enfin, ça vaut le coup de payer Arcanum Unbounded pour ces trois histoires qui constituent, en fait, un livre normal, finalement. Donc ça, c'est la deuxième option. Et la troisième option, c'est de commencer avec les séries. Alors, comme je disais, il y a deux séries principales, enfin, deux séries, Mistborn et les archives de Rochard, donc Fils de Brume, Fils de la Brume, et les archives de Rochard, et Fils des Brumes, c'est ça, et les archives de Rochard. Et les deux sont très différentes. La série Fils des Brumes, en fait, est divisée en deux. Il y a la première trilogie et la deuxième, en fait, quadrilogie, dont le dernier, le quatrième, n'est pas encore paru en français, mais qui devrait pas tarder à arriver, il vient d'être publié en anglais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux époques différentes dans le même monde. Le premier est un petit peu heroic fantasy, le deuxième, c'est plus Angleterre victorienne slash cowboy. Et c'est marrant de voir comment le système de magie évolue de l'un à l'autre et comment il est utilisé différemment, etc. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas spoiler. Mais il a prévu trois ou quatre, peut-être plus, séries dans cet univers. Et à chaque fois, il va décaler l'époque. Donc là, on termine l'époque victorienne cowboy. Et la prochaine serait sans doute beaucoup plus moderne. Donc ça serait intéressant de voir ça. Mais les deux sont indépendantes. Moi, je pense vraiment qu'on peut lire les deux indépendamment. On peut, si vous aimez les cowboys, elle est peut-être un peu moins bien, la série Wax and Wayne, Wax et Wayne. On pourrait dire qu'elle est moins bien. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai que un petit peu moins, mais avec Sanderson, c'est rare que ça soit vraiment mauvais, comme je le disais. Donc, on peut commencer avec, si vous aimez les cowboys, la deuxième. Et c'est marrant parce qu'il y a des références aux personnages de la première trilogie que vous ne comprendrez vraiment qu'en lisant la première ensuite. Et certains disent « Ah mais oui, mais il faut l'avoir lu pour comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce qui se passe. » Alors, il y a des petits spoilers, hein, évidemment. Vous comprenez une partie de ce qui s'est passé à la fin de la première en lisant la deuxième. Mais, donc, c'est pas le truc que je recommanderais, quoi. Moi, je dirais « Il faut commencer par la première. » Mais il y a du coup cet air de mythologie. C'est pas que les personnages... Bon, bref. Je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez commencer par la deuxième si vous le souhaitez. Je recommande de commencer par la première quand même. Donc, c'est vraiment des époques différentes, comme je le disais. Et les deux séries sont bien, mais parlons de la première. C'est une série d'heroic fantasy qui est relativement classique, mais quand même avec un twist en dehors de ces systèmes de magie. Mais ce que je dirais par rapport aux archives de Rochard, parce que là, c'est la concurrence est là pour savoir par laquelle commencer, c'est que c'est beaucoup plus facile d'approcher la série de Fils des Brumes que les archives de Rochard. Fils des Brumes, il y a, en gros, hein, je schématise, mais un groupe de personnages qu'on suit de manière presque linéaire sur toute l'histoire. Dans les archives de Rochard, on a plein de personnages différents. On est un peu plus en mode, justement, Tolkien. On a plusieurs personnages et on va sauter du point de vue de l'un à l'autre. Parfois, ils ne sont pas du tout au même endroit dans le monde et ils ne se rencontrent quasiment pas ou peut-être même jamais. Et donc, c'est beaucoup plus ambitieux, les archives de Rochard. On est dans un univers qui est même plus vaste, enfin, une planète, parce que c'est différentes planètes, les différents mondes, hein, ça n'a aucune importance, mais on est sur une planète qui est plus vaste. On sent les différents endroits, les différentes régions, les différentes nations, etc. Alors que, en gros, Fils des Brumes, on est dans une ville à peu près. Hein, je schématise. Donc, et le truc, c'est que la série des archives de Rochard, chaque livre fait, alors je ne sais pas combien c'est en français, nombre de pages. Alors ils disent là seulement 600 pages pour La Voix des Rois ou 700 pages. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus. Peut-être que c'est les suivants. Voyons un petit peu combien ils font. Non, 800, c'est pas si énorme que ça. Alors que l'Empire Ultime, le premier des Fils des Brumes, il fait 600. Bon, chaque livre est plus long pour les archives de Rochard, mais moins facile à aborder. Je dirais que si vous êtes friand de fantasy et que vous lisez beaucoup de fantasy, peut-être que les archives de Rochard vous donnera plus de ce que vous aimez. Mais perso, je ne recommande pas de commencer par là. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par les archives de Rochard. Je dirais que je recommanderais presque de le laisser pour la fin parce que y a des petits trucs qu'on peut comprendre dans les archives de Rochard qu'on comprend surtout si on a lu tout ce qui venait avant. Donc, tout ce dont j'ai parlé juste avant, y a des petits trucs qui peuvent vous y faire référence dans les archives de Rochard, qui ne gênent pas du tout hein, si on ne les a pas lus. Moi, j'ai adoré les archives de Rochard et je n'avais rien lu avant, mais ça vous apporte un petit peu plus si vous le connaissez. Ceci dit, c'est considéré comme le meilleur, la meilleure de ces séries, les archives de Rochard. Donc, si vous voulez direct le meilleur, peut-être que ça vaut le coup. Moi, ce n'est pas ce que je recommande. Encore une fois, les deux choses que je recommanderais, c'est Warbreaker, le plus classique, et sans doute le truc qui vous plaira le plus, ou alors achetez Arcanum Unbounded et lisez ces trois nouvelles, The Emperor's Soul, Shadows for Silence in the Forests of Hell, ou Sixth of the Dust. C'est les trois nouvelles à lire dans Arcanum Unbounded, ou alors plus simple, Warbreaker, et vous êtes tranquille. Dans tous les cas, si vous plongez dans le Cosmere, si vous êtes client, alors je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que c'est surtout pour les fans de ce genre de truc. Si vous n'aimez pas l'heroic fantasy, si vous n'aimez pas la magie, si vous n'aimez pas les personnages pas hyper complexes quand même, hein, il y en a, surtout dans les archives de Rochard, ça commence à être intéressant, mais... Et puis, il y a des personnages qu'il décrit qui ont des... J'ai l'impression que dans chaque livre, il y a au moins un ou deux personnages qui a une particularité psychologique. On sent qu'il y a des gens qui sont... Ah bon, je ne vais pas en parler plus, mais qui ont des conditions, des problèmes qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui. Et c'est marrant de les voir explorer dans ces contextes-là. Il y a donc oui, il y a des histoires de religion. C'est marrant parce qu'il est mormon. On le ressent peut-être dans le fait qu'il y a assez peu de sexe dans ses livres, voire quasiment pas, très très peu. Mais au-delà de ça, c'est pas vraiment un truc qu'on ressent. Peut-être que quand on le sait, on se dit ah bah oui, il parle beaucoup de religion et de machin et de ça. Mais pas du tout de la manière qu'on. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il soit affecté de manière négative par ça. Il est pas hyper conservateur ou ce genre de choses. Très ouvert, très intéressant surtout. Donc, c'est pas un truc qui est notable au-delà du fait que ah oui, bon, peut-être que ça peut expliquer ça, le fait qu'il soit plus familier avec telle ou telle ou telle chose. Mais donc, c'est surtout pour les fans quand même. Je recommanderais pas un truc comme ça à quelqu'un qui n'aime pas du tout la fantasy. C'est pas pour vous. Par contre. Si vous pensez que ça pourrait vous plaire, si vous aimez les bonnes séries, les jeux vidéo ou ce genre de choses, même au-delà de la fantasy, c'est pile cet univers, c'est geek à fond, c'est hyper excitant. Donc, vous pouvez y aller carrément à fond. J'en suis, moi, ne me spoilez pas, j'en suis à moitié de... j'ai presque fini tous ces trucs. J'ai pas encore lu The Lost Metal, j'ai pas fini le troisième de Wax and Wayne. Donc, j'ai presque fini. Mais me spoilez pas, mais si vous plongez là-dedans, je pense que, c'est pas que vous en sortirez plus, mais vous serez complètement avide comme moi, et vous pourrez venir en parler sur le Discord, par exemple. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse sur le Discord, on a un channel pour le dernier Positron, donc venez m'en parler. Peut-être qu'on fera un spoiler. Non, on peut pas parce que j'ai pas encore fini Wax and Wayne. Mais venez nous en parler, on pourra partager notre amour de Brandon Sanderson ensemble. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui pourront revenir dans la tribu, surtout si vous suivez mon guide facile. Bon, il sera dans les notes de l'émission, mais encore une fois, Warbreaker pour se lancer ou les nouvelles, et je pense que vous serez conquis. Je vous fais de grosses, grosses bises, et on se retrouve très vite pour un nouveau Positron, ou pour mes podcasts, le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu, où on parle de l'actu tech et de l'actu gaming, et le Discord, donc comme je disais, le lien est dans les notes de l'émission, venez nous rejoindre, et venez nous professer votre amour de Sanderson. Ciao à tous.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.